Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Split, ce qui en anglais signifie partager, voire diviser. C'est le mot qui revient souvent aujourd'hui aux États-Unis pour qualifier les résultats des élections de mi-mandat qui se sont déroulées hier. Partager, voire diviser, comme le Congrès américain. Les démocrates ont conquis la majorité à la Chambre des représentants, mais les républicains ont renforcé la leur au Sénat. Partager, voire diviser, comme le paysage politique américain, très clivé après une campagne dans laquelle le président Donald Trump s'est fortement engagé et qui a fait quasiment office de référendum pour ou contre lui. En sort-il affaibli ou renforcé? Donald Trump, jusqu'à quand? Ce sont quelques-unes des questions du jour. Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Anne Desine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre, auteur entre autres d'un récent ouvrage, La Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie, c'est aux éditions Dalloz. Et Paul Shore, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien et maître de conférences à l'université Paris Diderot. Une question simple pour commencer cette discussion, je ne sais pas si vos réponses le seront. Qui a gagné, Anne Desine?
Si l'on écoute M. Trump, c'est lui. Il s'est félicité pendant la conférence de presse sur combien les républicains sont bons et combien ils ont gagné grâce à lui, y compris. Et ceux qui ont perdu, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu son aide. Si on est un petit peu plus sérieux, je pense que c'est une belle victoire pour les démocrates parce qu'ils ont remporté une vingtaine de sièges à la Chambre malgré un découpage électoral extrêmement défavorable qui implique qu'il s'est grosso modo 10% de plus de voix que les républicains pour emporter un siège. Et au Sénat, la carte, le Sénat est renouvelable tous les deux ans et sur les
Par tiers.
Et sur les 36 sièges, les démocrates devaient en défendre 26. Donc on savait que ce serait très difficile pour eux. Et M. Trump a fait campagne. Il a fait campagne en capitalisant sur ce qui s'est passé durant la confirmation du juge Kavanaugh, qui a complètement galvanisé les républicains. Et donc il a réussi, et ça une belle victoire pour lui, à faire en sorte que les républicains augmentent leur majorité au Sénat.
Paul Shore, qui a gagné?
Moi, je suis d'accord avec Anne Desine. Les démocrates ont gagné. En fait, on entend des choses contradictoires, mais finalement, c'est assez simple. Hier, les républicains contrôlaient tous les leviers du pouvoir aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les démocrates contrôlent la Chambre des représentants et ils ont gagné 7 sièges de gouverneur. Et aujourd'hui, la majorité des Américains vivent dans des États où le gouverneur est un démocrate.
Ouais. On a vu sur les réseaux sociaux des débats sur le thème de la vague bleue. Mais depuis plusieurs jours, le bleu, c'est la couleur traditionnellement associée aux démocrates. Vague bleue ou pas vague bleue, Anne Desine?
Alors, on a beaucoup parlé de vague bleue il y a un mois. Et puis, c'était devenu une vaguelette. Et puis, il y avait la peur que la vague bleue se heurte contre un mur rouge, un mur républicain. Et c'est vrai qu'au Sénat, il y a eu un mur rouge. Alors maintenant, on parle de vague rose parce que ce qu'il faut bien retenir de cette élection, c'est qu'il y a eu plus de 3300 candidates femmes à tous les niveaux, fédéral, les États, niveau local, 257 juste pour la Chambre et le Sénat, et que beaucoup ont remporté les élections. Et avec des firsts, comme on dit, des premières, la première homosexuelle, deux musulmanes, une amérindienne,
oui,
etc.
Deux amérindiennes.
Donc voilà, tout un tas de femmes. Et cela va vraiment changer la physionomie et la coloration de la Chambre et au niveau des États, des assemblées législatives ou des collectivités locales. Parce que ces femmes, elles ont remporté aussi des postes de bureau des écoles, de shérif, de district attorney, de procureur, etc.
Paul Shore, je vous ai vu, vous, sur Twitter, défendre le concept de vague bleue.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde le nombre de voix et si on regarde la progression, il y a un transfert de voix assez massif. Alors, c'est vrai que ça arrive souvent dans les élections des midterms. C'est très fréquent aux États-Unis que le parti du président recule aux midterms. Mais cette vague est quand même assez forte. Et il faut voir effectivement que le système électoral était assez défavorable aux démocrates, d'une part à cause du découpage des circonscriptions pour le Congrès. Ce qui fait qu'ils avaient besoin de nettes victoires pour pouvoir remporter les sièges. Ils ont quand même remporté un certain nombre de sièges qui sont détenus par les républicains depuis parfois plus de 20 ans. Et puis, ils ont remporté des sièges étonnants parfois, au Kansas, dans des États, en fait, ils ont quand même réussi à gagner dans des États qui avaient voté pour les républicains. Et même là où ils ont perdu, la vague est arrivée. On prend l'exemple de Ted Cruz. Ted Cruz,
au Texas,
conserve son siège de sénateur avec 3 points d'avance. mais il a été élu la dernière fois avec 16 points d'avance. Donc en fait, il recule de, il recule de 13 points. Oui, c'est ça qui se passe.
Il y a des évolutions intéressantes dans le vote, effectivement, dans cette circonscription au Texas, Anne Desine, parce que en fait, ça fait plusieurs années que ça dure, que le score des Républicains baisse régulièrement au Texas. C'est assez surprenant. On pensait que ce serait républicain jusqu'à la fin des temps. Ça a l'air d'évoluer quand même.
Alors, c'est un état rouge, mais quand on regarde les détails, on voit qu'il y a des petites portions, des circonscriptions qui sont aux mains des démocrates. Par exemple, Austin, dont le maire est un démocrate. Donc en fait, c'est une question d'équilibre. Et puis il y a les fameuses banlieues. Et c'est vrai que les banlieues ont voté, surtout les indépendants et les femmes des banlieues, ont tendance à abandonner Trump et les républicains pour voter démocrate, à cause des excès langagiers du président, et en particulier de ses excès en matière d'immigration, d'envoi des militaires, 15 000 militaires sur la frontière, etc. Au niveau de l'État, c'est pour ça que les résultats sont si serrés. Toutes les circonscriptions s'accumulent. Et en fait, l'écart de voix entre les deux, c'est 3%. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est 700 000 voix. Donc c'est très, très peu.
Pour un État de cette taille, oui. Il y a aussi, au Texas, en fait, c'est un des endroits aussi où on voit une évolution démographique qui est en fait, à moyen terme, favorable aux démocrates. C'est que, alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le « gender gap ». Et c'est-à-dire qu'en fait, les femmes, y compris dans des États, par exemple, où des républicains ont gagné, les femmes ont souvent voté majoritairement démocrates. Mmh. Et on voit que les hommes ont plus voté républicains. Et là, la question du droit à l'avortement joue beaucoup. Il y a les excès de Trump, mais il y a aussi l'histoire, par exemple, de Kavanaugh à la Cour suprême. Ces choses ont joué plus pour le vote des femmes. Et puis, ce qui se passe dans un État comme le Texas, c'est que la population plus jeune, qui est plus cosmopolite, plus mélangé, plus diplômé, ces gens-là sont plus démocrates. Donc, au Texas, le futur appartiendra aux démocrates.
Anne Desine, vous vouliez répondre.
Oui, non, simplement ajouter une chose. Il y a une autre catégorie d'électeurs dont il faut tenir compte, sont les hispaniques. La part des hispaniques dans la population américaine, et je parle des hispaniques légaux, ceux qui peuvent voter, même si M. Trump profère des tas de choses en disant qu'il y a des tas d'hispaniques illégaux qui votent. Donc, si on prend les hispaniques qui ont l'autorisation de voter, leur nombre est croissant. Et il est croissant sur tout le sud des États-Unis, le Texas, la Californie, etc. Simplement, on les appelle le géant endormi, the sleeping giant, parce que pour le moment, certains votent républicains, d'autres démocrates, ils ont tendance à ne pas participer beaucoup aux élections. Certains disent parce qu'ils viennent de pays peu démocratiques, où il n'est pas habituel, où c'est pas important de voter.
C'est effectivement à surveiller. Vous avez déjà tous les deux commencé à en parler. Quelle a été l'influence du découpage électoral ? En France, à une époque, on parlait de charcutage électoral. Aux États-Unis, on parle de gerrymandering. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, sur les équilibres au Congrès. Tiens, voilà, Paul Scheuer, pourquoi on parle de gerrymandering ?
Oui, en fait, alors c'est une vieille pratique. En fait, c'est attribué à une personne, en fait,
un gouverneur Jerry.
Voilà, qui s'appelait Jerry, et donc c'est ce charcutage de Jerry. Mais c'est une question très importante aux États-Unis. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, donc un État fédéral, dans chaque État, ce sont les États qui font le découpage électoral. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral leur dit combien ils ont de sièges à la Chambre des représentants. Ça, c'est révisé tous les 10 ans avec le recensement. Et ensuite, les États, c'est eux qui font le découpage. Alors, selon les États, c'est parfois le gouverneur, c'est parfois l'Assemblée. Et donc, ça a longtemps été un processus politique où les gens qui contrôlent la majorité dans l'État se sentaient autorisés à fabriquer des cartes électorales qui auraient été favorables. Ce qui s'est passé dans l'élection d'hier, c'est que dans un certain nombre d'États, il y a eu des référendums qui ont été gagnés, qui ont imposé une commission neutre avec des démographes, des statisticiens, qui auront comme mission de faire une carte politiquement neutre. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les deux partis n'aiment pas ça. Les démocrates non plus. Mais on peut imaginer qu'en 2020, enfin c'est même assez clair, en 2020 la carte sera moins biaisée qu'elle ne l'était en 2018, c'est-à-dire plus favorable aux démocrates, ou disons elle sera moins défavorable aux démocrates parce qu'elle a été conçue comme défavorable aux démocrates.
Anne Desine, ce charcutage électoral, ça joue beaucoup.
Oui, gerrymandering, c'était Jerry et Salamander, la circonscription, la forme d'une salamandre. Pendant des années, on a accepté que ce soit un processus non seulement politique, mais partisan. C'est-à-dire que le parti au pouvoir procédait à son petit découpage.
Et chacun à son tour. Hein, donc on avait tort de s'en priver quand les prédécesseurs l'avaient fait. C'était l'idée.
Voilà, mais ça restait à peu près acceptable. dans la mesure où il n'y avait pas encore eu les progrès de l'informatique. Ce qui s'est passé en 2010, l'année du recensement, c'est que les Républicains, dans la vague du Tea Party, ont remporté plus des deux tiers des États, donc étaient majoritaires dans ces États, et avec l'aide de l'outil informatique, ils ont créé une carte de découpage électoral tellement déséquilibrée que, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les démocrates aient 10% de plus de voix pour l'emporter. Mais il y a une prise de conscience de ce problème parce que ces questions de découpage ont été portées devant les juridictions et ensuite ont abouti à la Cour suprême qui a refusé de s'en mêler. C'est-à-dire qu'elle s'était mêlée de découpage électoral s'il discriminait contre les minorités, en particulier les Africains-Américains. Mais en ce qui concerne le découpage uniquement partisan, c'est-à-dire qui bénéficie à un parti, elle a décidé de ne pas s'en mêler. C'est la raison pour laquelle le président Obama, depuis qu'il n'est plus président, et son ancien ministre de la Justice ont créé un groupe de travail et sont très impliqués sur ce travail de rendre le découpage électoral
un petit peu plus honnête.
Et voilà. Et c'est vrai, c'est très très intéressant ce qui se passe dans les États. C'est en partie le résultat du travail d'Obama et de Eric Holder. C'est d'avoir des référendums d'initiative directe où les citoyens demandent plusieurs choses. L'inscription automatique sur les listes électorales, parce qu'il y a des tas de gens pour qui c'est presque impossible de s'inscrire. Et un découpage électoral par commission indépendante ou quelqu'un d'un peu plus impartial. Et à partir du moment où les démocrates, Paul l'a bien dit, ont remporté plusieurs postes de gouverneur et on peut penser qu'ils auront un peu plus de sièges dans les congrès, on peut penser que le processus sera moins déséquilibré et moins partisan et que peut-être, à terme, ce qui a été impossible depuis 2010, les démocrates puissent reprendre la majorité de façon durable à la Chambre.
Alors, l'un des principaux résultats au niveau national, c'est que la Chambre des représentants bascule, comme c'est souvent le cas aux élections de mi-mandat, hein, depuis la guerre. Quel est son pouvoir? Ça change quoi concrètement, Paul Scheuer?
Mais en fait, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire, par exemple, que Trump, même avec les Républicains au Sénat, ne pourra pas revenir sur la réforme de la santé d'Obama, parce que les démocrates, ils auront besoin du vote de la Chambre des représentants, qu'ils n'auront pas, que... sans doute, même sur la politique très conservatrice, anti-avortement, il y aura des limites. Par exemple, le projet d'arrêter de financer le planning familial ne pourra pas se faire parce que c'est la Chambre qui vote le budget. Donc, ces choses-là vont se continuer. Et donc, en fait, une des grandes compétences de la Chambre des représentants, parce qu'elle n'a pas toutes les compétences, c'est le vote du budget. Et donc, par exemple, moi je m'attends à ce qu'ils enlèvent le financement de la construction du mur à la frontière avec le Mexique. Des grands projets de Trump va pouvoir en parler, et puis, à la Chambre des représentants, ils vont dire, ouais, mais on paye pas. Et donc là, ils vont devoir négocier. Alors, que les démocrates négocient avec Trump, bon, ils ont à la fois des deux côtés fait des déclarations, on est responsable, on va négocier, et d'un autre côté, on négociera jamais avec Trump, ou on négociera jamais avec Nancy Pelosi du côté de Trump.
Va devenir speaker à la Chambre des représentants.
C'est possible, en principe. C'est probable.
Voilà. Oui. Ce basculement de la Chambre des représentants, c'est vraiment un caillou dans la chaussure de Donald Trump. Il va pouvoir continuer à parler comme il le fait, mais il va avoir des difficultés à faire, Anne-Désine.
Oui, bien sûr. Mais le mur, il n'avait pas obtenu grand-chose pour le mur. Mmh. En tout cas, il est clair que... Il ne pourra plus faire passer, par exemple, une baisse d'impôts, alors qu'il en avait annoncé une autre supplémentaire avant les mid-terms, et que les démocrates vont bloquer. D'ailleurs, il vient de donner sa conférence de presse, où il s'est accordé tous les mérites, etc.
Presque une victoire totale, c'est
voilà,
ce qu'il a dit.
Exactement. Voilà, exactement. Mais lorsque la question a été posée, mais alors est-ce que vous êtes prêt à une fermeture du gouvernement fédéral? C'est-à-dire que si... Et la Chambre, qui a effectivement le pouvoir budgétaire, refuse d'accéder à ces demandes. Il peut très bien dire, bah, très bien, on y va. De même, le plafond de la dette.
Donc, Un shutdown, comme
c'est déjà arrivé.
Voilà. Et donc, on risque d'aller vers un durcissement de la situation. Mais il y a un autre pouvoir de la Chambre qui est important, c'est le pouvoir de surveillance, le pouvoir d'oversight. Donc, on sait que, avec la majorité démocrate, ce sont des démocrates qui vont prendre la présidence de toutes les commissions, des commissions très très puissantes et qui disposent d'un pouvoir extrêmement important qui est celui de citer à comparaître, ce qu'on appelle le subpoena. Donc ils peuvent réclamer des documents et ils peuvent citer des personnes à comparaître. Alors, on connaît certains des représentants, d'autres on les connaît pas, mais l'un va prendre la tête de la commission sur les renseignements. Bon, peut-être ils vont essayer de réouvrir l'enquête sur la Russie qui avait été menée de façon extrêmement partisane par Nunes. Il y a la commission Ways and Means, des moyens qui a un pouvoir financier très important, qui va peut-être réclamer la déclaration d'impôt de Trump. D'ailleurs, il a immédiatement dit dans sa conférence de presse, il a ressorti la Libye de la campagne. Ah mais attendez, moi je suis sous audit, sous vérification. Tant que je suis sous audit, je ne peux pas communiquer ma déclaration. Donc, on peut penser quand même, mais c'est un risque pour les démocrates, parce que les républicains ont déjà prononcé deux mots, harcèlement et overreach, aller trop loin. Mmh. S'ils ne font que de l'attaque et de la surveillance, ils seront dépeints par les républicains en 2020 comme étant incapables de proposer quelque chose de positif et de concret.
Paul Shore, Donald Trump, il sort affaibli ou renforcé, selon lui, enfin, selon vous?
Oui, selon lui, de toute façon, il n'est jamais affaibli. Mais non, moi, je pense qu'il est effectivement, affaibli. Après, on peut s'attendre à ce que un certain nombre de ses projets, il n'arrive pas à le faire, et donc qu'il prenne à témoin l'opinion en disant
La faute des démocrates.
Voilà, c'est la faute des démocrates, etc. Je pense que néanmoins, sur un certain nombre de choses, ils vont transiger parce qu'il y a des choses qui se feront, il y a des choses qui seront votées. Je suis pas sûr qu'on va rentrer dans une période de 2 ans de blocage, mais il y aura des bras de fer assez souvent, et Trump ne va pas gagner à chaque fois.
Il est affaibli pour vous aussi, Anne-Désine, Donald Trump?
Oui, en fait, c'est très imprévisible, parce que on pourrait imaginer que les démocrates et le président se mettent d'accord, par exemple, sur un projet d'infrastructure.
C'est ce qui a été évoqué à la conférence de presse du jour, absolument.
Bon, qui est quand même d'actualité et le plus probable. L'immigration, c'est très peu probable. Le réchauffement climatique, n'en parlons pas. Donc l'infrastructure, mais il y a quand même deux gros problèmes. C'est qu'il n'y a plus du tout d'argent après les baisses d'impôts. Le déficit budgétaire a déjà augmenté considérablement. Et puis surtout, la gauche du Parti démocrate, dans l'optique de 2020, n'a sans doute pas envie de pouvoir être décrite comme ayant travaillé avec Trump. Donc, est-ce que les centristes, pour parler un petit peu de façon simple, le centre du Parti démocrate va pouvoir avoir suffisamment de voix pour que un projet d'infrastructure qui plairait aussi aux républicains puisse être adopté et signé par Trump? Là, on est quand même dans le rêve éveillé.
Vous en avez un peu parlé, Paul Shore. L'enquête du procureur spécial Robert Mueller. En fait, il y a plus ou moins un accord pour que 2 mois avant l'élection, il ne dise plus rien. Ça va reprendre. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à une avalanche de Robert Mueller?
C'est possible, mais là encore, moi je ne suis pas informé. Non, c'est vrai que ces choses se passent un peu de façon, enfin, sous les radars. Mais c'est vrai aussi que parmi certains des nouveaux démocrates élus, certains sont arrivés avec l'idée qu'ils vont passer à l'offensive, ils vont se venger. Enfin, il y a aussi du côté d'une partie de l'électorat démocrate et certains élus l'idée de, en fait, faire payer en fait à Trump et aux républicains les 2 ans que le pays vient de traverser. Ensuite, bon, voilà, le Parti démocrate, effectivement, est divers. Il y a des gens qui sont plus modérés, d'autres qui sont plus radicaux. On verra ce qui se passe. C'est difficile de prédire l'avenir.
Très rapidement, Anne-Désine, justement, les nouvelles têtes dont vous avez parlé au début de cette émission qui sont apparues, est-ce qu'elles peuvent rebattre les cartes pour l'échéance 2020? Parce que c'est le système américain, on en est déjà là, quoi.
Oui, alors il y a une vingtaine de noms. Donc il est très difficile de voir ceux qui peuvent émerger. Il faut espérer que la vieille garde, Joe Biden, Bernie Sanders et, dans une moindre mesure, Elizabeth Warren, ne soient pas candidats. Il y a quand même beaucoup de sang neuf, beaucoup de nouveautés, beaucoup de diversité, comme on dit aux États-Unis, des femmes, des minorités, etc. Alors, est-ce que ce que ces nouveaux candidats vont porter vers l'avant, c'est un programme trop à gauche qui pourrait peut-être ne pas conquérir un électorat suffisant? C'est possible, mais on n'en est pas là. Rappelons-nous que 8 mois avant, personne ne connaissait Obama.
Merci beaucoup, Anne-Désine. Merci à vous également, Paul Shore. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On a appris plein de choses. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.